J'ai bien aimé le titre que vous m'avez proposé, Culture, transgression, banlieue, parce que j'ai trouvé que c'était un titre les pieds dans le plat. C'était formidable. C'est-à-dire que ça interroge vraiment une. C'est pas, je ne soupçonne pas du tout d'avoir ça comme image implicite, mais c'est une doxa politique implicite qu'il y a une articulation causale entre ces trois concepts de la culture, une culture ou des cultures différentes, en tout cas un problème culturel, les banlieues, c'est-à-dire les gens qui y habitent, bien sûr, mais aussi les banlieues en tant que génératrice conservatrice d'une certaine culture, et puis la transgression. Et donc, on pourrait imaginer que les habitants des banlieues pauvres, dotés d'une culture spécifique, ont une certaine inclination à la transgression et même à la délinquance. Hein, et qu'on a des raisons donc de se méfier de cette population et de l'entourer plus spécialement, de façon policière, et de la soupçonner de ce que on sait depuis longtemps, depuis toujours, qu'il y a une suspicion de classe laborieuse, classe dangereuse, des ouvriers avec le couteau entre les dents, du rouge dangereux, etc., qui remonte très loin, qui revient sous des formes différentes, mais qui était une répétition lancinante de notre discours politique. Et qui aboutit à ce qu'on ait donc tendance à donner, d'abord à moraliser cette question-là, se demander comment répondre à cette identification de classe laborieuse, classe dangereuse, catégorie populaire et y compris immigrée, et puis à trouver des réponses à cette moralisation qui, pour la droite, punir pour l'exemple, ce qu'on commence à être vraiment saturé de cette punition pour l'exemple après une présence abondante de la droite au pouvoir, et de la gauche, sauver le prolétariat par l'éducation, ce qui est une façon différente de répondre au même problème, mais qui fait aussi abstraction du fait qu'on parle d'une population qui dispose d'une culture propre, de valeurs, de rites, de symboles, de façon de s'exprimer, de langage, etc. Alors, en deux mots, l'état de l'art sur la question. Il est assez pauvre, en fait. Le type qui a le mieux posé le problème dans les années récentes, c'est Éric Morin, qui a abordé les choses à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a il y a 6 ou 8 ans, je crois que c'était en 2004, il a sorti un livre qui s'appelle Le ghetto français, et dans lequel il interrogeait la tendance à la ghettoisation en France, mais vue d'abord par les classes possédantes avec cette inclination à protéger leur ghetto, en particulier le ghetto scolaire. Et puis, il a d'ailleurs, depuis cette époque-là, depuis 8 ans, il a beaucoup travaillé cette question-là. Il sort de tous les 2-3 ans un livre toujours dans la même collection, et à sa façon un peu quantitativiste de polytechnicien, mais de polytechnicien assez intelligent, enfin, ce n'est pas toujours le cas, il fait revenir la question du sens de cette tendance qui existe depuis maintenant 60 ans en France à ségréguer les catégories sociales. Autre état de l'art, il est exploré par un article récent d'une fille qui s'appelle Noémie Ward, que je ne connaissais pas, et qui explore l'idée de l'effet de quartier. Alors, cet effet de quartier, il est beaucoup plus exploré à l'étranger. Et dans les pays où on a une certaine tendance à la sociologie quantitativiste, donc la mesure et la mise en facteur, etc., de données quantitatives. Et aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et en Suède, on a eu des fortes forte tendances à tenter de mesurer ce qui, dans le fait d'habiter dans le même quartier, permet de considérer qu'on accélère des phénomènes repérables par ailleurs sur l'échec scolaire, sur la délinquance, sur certaines questions de santé, etc. Et les réponses, c'est bien sûr que oui, un peu, mais pas complètement. C'est-à-dire que l'effet de quartier, on en voit certains aspects. Par exemple, quand on voit que quand des gens se déplacent d'un quartier dans lequel ils ont été stigmatisés, ils ont grandi, ils ont développé des traits soit scolaires, soit délinquants, soit médicaux, on s'aperçoit qu'une fois qu'ils sont déplacés, ils continuent à développer les mêmes travers. Et donc l'effet de quartier est très discutable. Alors on va tenter de voir ensemble de quelle façon on pourrait imaginer cet effet de quartier à partir de la question qui m'est posée, culture, transgression, banlieue, et donc explorer l'hypothèse que la transgression est l'effet d'un décalage culturel entre une catégorie décideuse, je n'ai pas dit exploiter, je ne veux pas dire comme Bourdieu dominer, mais je dis une catégorie décideuse, ce serait les dominants, donc, qui met en place un projet politique et qui le met en place de façon de plus en plus systématique et obstinée, et puis une catégorie populaire qui lui oppose sa culture. Et donc ce que je vais tenter d'explorer, c'est de quelle façon il existe une opposition culturelle assez manifeste, assez tranchée, qui développe des attitudes transgressives au sens propre et qui quelquefois vont jusqu'à la délinquance, on va le voir. Alors avant d'aborder la dimension transgressive et la confrontation de ces trois concepts, culture, transgression, banlieue, je crois qu'il faut qu'on passe par une petite exploration du processus ségrégatif qui aboutit au fait que ces cultures sont vraiment de plus en plus distinctes l'une de l'autre, au point que sur beaucoup de points, elles s'opposent et elles, même on peut dire qu'elles ne se comprennent pas. Ce qui s'est déjà produit dans l'histoire, ce qui se produit de façon très, très manifeste dans d'autres pays où les catégories sociales sont organisées de façon différente, mais en France, on a l'impression que la tension croît. Alors, en deux mots, pour ne pas répéter des choses qui vous sont familières, quelques repères sur l'organisation d'une discrimination sociale systématique. Alors, elle repose sur trois ou quatre facteurs, cette organisation discriminative, ce processus ségrégatif. Le premier, c'est bien sûr l'organisation spatiale, qui a rompu avec une tradition de construction des villes très ancienne en France, où on progressait par effet de proximité de la ville à ses faubourgs, des faubourgs à la banlieue, etc. Et les faubourgs, on en discutait tout à l'heure, étaient progressivement happés par la ville et s'intégrer à la ville de façon à devenir des endroits un peu différents de la ville-centre, mais quand même appartenant à la ville. Et puis, la banlieue s'intégrant elle aussi progressivement à la ville. On en discutait tout à l'heure que à la différence de ce que l'Empire avait fait de Paris, on maintient encore de façon très nette la coupure entre la ville-centre de Paris et sa banlieue, et c'est la même chose dans beaucoup de villes de province. Et surtout, à partir de la fin des années 50, du début des années 60, on a bâti loin, sur un mode différent et pas cher. Et ça, c'est une vraie rupture sur le plan de l'urbanisme. Les urbanistes considèrent que c'est quelque chose de rare, dont ils voient les origines dans la charte d'Athènes et une certaine conception de la ville où on distingue des fonctionnalités, et donc une fonctionnalité qui est celle de l'habiter, qui, pour des raisons à la fois politiques, de confort, mais très très hypocrites, cherche à repousser à une certaine distance les catégories populaires, en prétendant d'ailleurs qu'on allait instaurer de la mixité sociale. On le fait d'ailleurs un petit peu au début, en 60, jusqu'au milieu des années 70, mais on excentre les pauvres. Grosso modo, on excentre les pauvres, et ce faisant, on les prive d'une dimension culturelle très importante que je vous cite un peu pour mémoire, mais qui mériterait d'être beaucoup plus approfondie, c'est qu'on les prive de l'urbanité. On les prive de l'urbanité, c'est-à-dire pas seulement des plaisirs de lécher les vitrines, mais aussi de tout ce que la culture urbaine offre sur le mode relationnel, sur le mode symbolique, sur le mode ludique, sur le mode de la rencontre, sur le mode, etc., de la drague, tout ça. Et les gens qui vivent dans les banlieues, qui représentent à peu près 12% de la population, dans les cités de banlieue, hein, dans les, je parle là pas des centres-villes, des petites centralités périphériques, mais vraiment des cités de banlieue, ce qu'on appelle la banlieue, quand on pense aux jeunes des banlieues, ils sont privés de ce rapport à l'urbanité et des effets culturels de ce rapport à l'urbanité. Le deuxième facteur ségrégatif, il est lié à l'activité. Le chômage, il s'installe en France de façon importante à partir des années 70, de ce qu'on a appelé curieusement les Trente Glorieuses, et il s'installe pour ne pas être déraciné. C'est-à-dire qu'on vit depuis 30 ans à peu près dans un univers où les gens des catégories populaires, ils sont soit menacés du chômage, soit installés dans un chômage structurel. C'est-à-dire que si on va à la marge de la marge des catégories populaires, chez les gens qui sont à la fois masculins, maghrébins, habitent un peu loin et n'ont pas été bons à l'école, les taux de chômage sont de l'ordre de 70-80%. Et dans certaines familles, on renonce même à tenter de trouver un travail. On est installé dans un état d'esprit qui est qu'on a renoncé à participer à cette grande aventure de la transformation du monde qui est le travail. Et on a renoncé à l'aventure et tout ce qu'elle apporte comme socialisation, mais aussi comme inventivité, comme sollicitation de l'imaginaire, comme paradoxe, etc. Et les gens qui sont contraints maintenant ont été marginalisés, sont installés dans cette marginalisation de la transformation du monde, que je continue à appeler transformation du monde par opposition au travail, parce que le travail, lui, il est fortement réduit pour ces catégories populaires à un emploi, et un emploi de plus en plus normé, de plus en plus procéduré et de plus en plus douloureux. Ce qu'on a cessé de... Enfin, il y a des gens qui le font, hein, il y a des laboratoires qui travaillent beaucoup sur cette question-là, mais depuis, disons, 25 ans à peu près, les effets du travail sur le corps et sur la santé mentale sont de plus en plus pénibles, au point que les gens qui y sont soumis s'installent dans une sorte de haine du travail, de haine de l'emploi, liée aussi aux promesses non tenues du travail à l'égard de l'immigration. Mais aussi, très concrètement, aux effets du travail sur le corps. Hein. Alors, on n'est pas sur la silicose des mineurs, mais on est sur des effets du travail sur la musculature, sur la tension nerveuse, sur beaucoup d'aspects de la santé, de l'intégrité physique et mentale. Le troisième... effet de ségrégation, facteur de ségrégation plutôt, c'est la tergiversation récurrente autour de la citoyenneté. On pourrait très bien imaginer que dans un pays comme l'Angleterre, par exemple, tous les gens qui habitent en Angleterre soient des Anglais, que dans un pays comme la Hollande, tous les gens qui habitent en Hollande soient des Hollandais, que dans un pays comme la France, tous les gens qui y vivent soient des Français. Ça avait un certain sens dans une histoire pas si lointaine que ça. Et bien, c'est de moins en moins le cas, et au point que même des projets dits de gauche, en tout cas qui tentent de travailler ou de développer des modalités d'intégration sociale, considèrent que le plus qu'on puisse faire, c'est d'accepter peut-être le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales, mais pas la citoyenneté pleine et entière pour les gens qui sont ici depuis longtemps. Et sur le plan de la participation quotidienne à la vie quotidienne politique, c'est un problème, mais sur le plan symbolique, c'est très très important, parce que dans un pays comme la France, on a une année sur cinq qui est rythmée par un certain nombre d'échos qui sont plus de l'ordre du, encore une fois, du symbolique et du, comment dire, de la compétition sportive que de la réelle décision de la population à son destin, mais qui sont très importants sur le plan de la cohésion, l'intégration sociale. Et donc, une partie de la population des gens qui vivent en banlieue est exclue de ça, et par solidarité de fait, la partie de la population qui pourrait voter ou qui pourrait participer à cette grande foire démocratique, élective, ce grand jeu télévisuel, plein de jeux de mots, de postures, de mots, d'enjeux plus ou moins sincères, etc. La partie qui pourrait y participer s'en exclut par solidarité. Et soit vote pour l'extrême droite, soit s'abstient. Alors, à ces trois facteurs d'exclusion, faudra en ajouter un qui est beaucoup plus important qu'on l'imagine et beaucoup plus partagé, c'est le racisme ordinaire. On parle de catégories populaires. De fait, on s'aperçoit quand on visite les zones où sont installées les catégories populaires, c'est qu'elles sont... ces catégories populaires composées de, grosso modo, de masses paysannes qui ne viennent plus du Berry ni de l'Occitanie, mais qui viennent de plus loin, d'Espagne et du Portugal, et puis d'Algérie, du Maroc, du Cambodge et des plaines sahéliennes, et que à l'égard de ces derniers, les phénomènes racistes sont vraiment quotidiens et sont installés dans une doxa politique et journalistique qui fait que maintenant il devient tout à fait admis pour une dame qui est derrière un bureau de la sécurité sociale, des allocations familiales, pour un policier, pour certains enseignants, d'accepter de leur part des rejets qui sont de l'ordre du racisme et qui, pour les gens qui vivent ces rejets racistes, sont une obsession absolument quotidienne. Absolument quotidienne. Voilà. Alors, tout cela nous dresse un paysage assez ségrégatif. J'aurais tendance à parler d'une sorte d'apartheid léger, mais installé, surtout lorsqu'il est conforté par le discours, et apartheid léger qui a pour effet la construction et le développement de deux ensembles culturels qui se distinguent, qui s'appartent les uns les autres et qui parfois s'opposent. Je vais pas être très long sur les caractères de ces deux ensembles culturels, mais je trouve qu'il mérite d'être soumis à quelques caractères, quelques traits dominants, disons. Mais pour ce qui est de la culture dominante, en tout cas telle qu'elle est vue par les gens qui n'y appartiennent pas, qui la voient de loin, on pourrait repérer les traits suivants. D'abord, c'est l'idée d'un universalisme englobant, c'est-à-dire l'idée que les valeurs qui sont les nôtres, nous dominants, sont proposées sans guère de discussion possible aux autres. Et donc, vous qui habitez ces banlieues, vous êtes sommés, avec une certaine délicatesse, mais sommés quand même, d'adopter les valeurs de cet universalisme, c'est-à-dire les droits de l'homme, liberté, égalité, laïcité, etc., et sans qu'on puisse vraiment les discuter. Deuxième trait, c'est la réduction de la démocratie aux institutions. Alors on aborde une question qui est assez peu travaillée chez nous, c'est l'idée, mais pas mal travaillée dans des pays du Sud, c'est l'idée que la démocratie n'est pas du tout une invention occidentale, qu'elle est fortement partagée par beaucoup de cultures à la surface de la planète et à travers l'histoire, et que bien d'autres pays avaient d'autres façons de tenter de faire monter, disons, la volonté collective, partagée, et que et que ces différentes façons ne sont pas du tout interrogées, ni pas du tout acceptées dans notre pays, et que dans notre pays, la démocratie se réduit, et se réduit de plus en plus d'ailleurs, avec tous les soupçons que Rousseau lui portait, au rite électif épisodique, avec tout ce qu'il a de terriblement pervers dans son invitation aux citoyens à abdiquer la surveillance des élus et des décideurs. Le troisième trait, c'est une forte tendance égalitariste. Ça, c'est quand même une conquête assez forte de l'Europe occidentale, une installation qui s'étale sur plusieurs siècles, hein, qui commence bien avant la Révolution française. Hein. Tocqueville notait déjà que la tendance à l'égalitarisation appartenait à l'Ancien Régime. Mais tendance à l'égalité, à l'égalitarisation, on pourrait dire, qui maintenant se réduit un peu aux injonctions verbales et s'inscrit de moins en moins dans les faits, parce que, comme vous le savez, depuis ces fameuses Trente Glorieuses, eh bien, les chances des uns et des autres se distancient. Et alors qu'il y a 30 ans, on aurait pu dire que les ouvriers ou les gens d'origine ouvrière avaient de plus en plus de chances d'être bons à l'école et de réussir aux grandes écoles. Maintenant, c'est de moins en moins vrai. Un quatrième trait, c'est la croyance dans la vertu du progrès technologique et économique, dont on voit qu'il repose sur des dogmes qui sont mis à mal par les réalités financières contemporaines, mais qui sont quand même très très fortement imprégnés dans la mentalité locale. Et le dernier trait est beaucoup plus important qu'on ne l'imagine pour les gens, en tout cas de ces catégories populaires, des catégories populaires contemporaines en France, c'est la condescendance à l'égard de l'espace religieux. Je dis condescendance parce que la laïcité, qui est autre chose, hein, elle n'a pas forcément de condescendance pour le religieux, à condition que le religieux soit mis à sa place. Mais une interprétation de la religieux, de la laïcité plutôt, c'est une certaine condescendance à l'égard du religieux qui fait qu'on considère que les invocations à la divinité sont malvenues, que ce soit pour des raisons ou pour d'autres, d'ailleurs pour des raisons alimentaires, pour des raisons vestimentaires, pour des raisons rituelles, pour des raisons ceci ou cela, et que d'une part, et d'autre part que la morale n'a pas de raison de tenter de s'appuyer sur une mythologie religieuse et en tout cas qu'on est pas bienvenu à s'en inspirer. À côté de ça, ou plutôt en face de ça, les cultures populaires, elles reposent sur les traits qu'on pourrait caractériser de la façon suivante. D'une part, un retour de la pensée métaphysique dans les milieux populaires contemporains, sans doute sous l'effet d'un discours musulman, qui n'est pas du tout islamiste, mais qui est musulman, qui est assez partagé, mais qui s'appuie pour des gens venant d'autres horizons culturels sur les résonances qu'a ce discours musulman chez des gens qui sont peut-être d'origine bouddhiste ou d'origine animiste ou d'origine chrétienne, mais d'une autre façon. Sous cet effet-là, les valeurs, le mode de pensée métaphysique est assez partagé. C'est-à-dire que les gens de catégorie populaire sont assez enclins à raisonner en termes de métaphysique, c'est-à-dire à considérer que nous sommes le jouet de forces qui nous dépassent, d'une part, et que d'autre part, la morale quotidienne que nos parents nous enseignent, elle s'appuie sur des mythologies et une relation aux forces supérieures qui nous dépassent et qui nous enjoignent. Le deuxième trait, c'est la montée du respect multiculturaliste, qui a été pas mal utilisé par les politiques, qui se sont amusés à faire de la démagogie sur le terme du respect. Le respect tel qu'il est encore très largement évoquée dans les milieux de la banlieue est un respect qui se fonde sur l'acceptation d'un multiculturalisme. C'est-à-dire que ce respect, il consiste à tenir en respect l'autre en lui disant de ne pas trop intervenir dans son monde à soi ou son univers culturel à soi, et donc à accepter que les différences culturelles entre des gens qui ne se connaissent pas forcément bien les uns les autres soient admises par cette mise en respect. Mise en respect, ça veut dire je ne m'occupe pas trop de tes affaires, à condition que tu ne t'occupes pas trop des miennes. Et de cette façon-là, nous pouvons nous porter crédit d'une certaine estime réciproque, sans aller au-delà et sans aller jusqu'à l'exploration de la culture de l'autre. Et dans des milieux où des gens de catégories culturelles extrêmement diverses cohabitent, c'est une nécessité de convivialité quotidienne. Troisième trait culturel, c'est une pratique de la débrouille comme mode de vie. Là, on voit arriver un trait qui est très manifeste, c'est que dans nos banlieues européennes, on a maintenant de plus en plus des extensions du tiers-monde qui viennent suggérer des façons de vivre qui sont empruntées au tiers-monde. Alors, elles sont empruntées au tiers-monde par défaut parce que les gens qui sont venus dans ces cités, ils sont venus pour travailler, gagner leur vie, sans doute revenir au pays d'ailleurs pour y installer un peu de la fortune glanée ici. Mais défaut de travail, on se débrouille. Et donc la débrouille, elle implique comment dire, des jongleries avec les situations, avec les institutions, avec les administrations, jongleries diverses, qui vont du travail épisodique à la débrouille des allocations familiales et autres, allocations logement, allocations machin, allocations parents isolés, les vols, les larcins, les petits vols et les gros vols, le deal, etc. La vie quotidienne d'une famille de banlieue sur une longue période et les faits de l'articulation de ces différentes ressources qui sont orchestrées par des proverbes qui sont « débrouille-toi, le ciel t'aidera »,« de toute façon, on n'a pas d'autre solution »,« comment faire », etc. Et le dernier trait que je voudrais évoquer, c'est le mode de régulation par le contrôle social. Je reviens sur cette caractéristique des catégories populaires qui vivent dans les banlieues. C'est des gens qui, il y a deux ou trois générations, quelquefois vraiment deux, c'est-à-dire c'est les parents des gens qui sont de jeunes adultes maintenant, qui ont grandi dans les bourgs ou les savanes ou les forêts d'ailleurs d'Afrique, d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud-Ouest ou d'Amérique latine, dans des villages où le mode de régulation, c'est le contrôle social. C'est-à-dire qu'on vit dans un village et grosso modo, pour qu'il n'y ait pas de bêtises, eh bien, tout le monde savait ce que tout le monde faisait et on n'avait pas besoin, ou on avait guère besoin de police. Alors le contrôle social, on sait qu'il engendre le meilleur et le pire, mais en tout cas, c'est un mode de régulation qui est très différent du mode de régulation urbain qui est policier. Qui pourrait être très d'ailleurs extrêmement civilisé, le mode policier. Pour l'instant, il tente à échapper à cette possibilité de civilisation, mais on est là dans un malentendu parce que les uns et les autres ne comprennent pas le mode de régulation de l'autre. Alors, j'aimerais maintenant explorer un peu plus à fond les différentes modalité de la transgression. Je vais le faire en m'aidant de ce que nous avons vu apparaître au cours de cette année 2011, de façon un peu remarquable, dans trois mouvements qui ont été, je trouve, assez éloquents en expression et assez convergents d'ailleurs dans ces expressions, qui sont le mouvement du printemps arabe d'abord. Le mouvement des indignés en Europe ensuite, et le mouvement des occupations, Occupy Wall Street et Occupy je ne sais quoi, surtout sur le continent américain. Trois mouvements qui ont des origines différentes, qui ont des origines différentes, mais qui portent des discours très très convergents, parce que grosso modo, dans les trois mouvements, on réclame d'une part des ressources, c'est-à-dire de quoi manger dignement, dans les pays développés du travail ou de l'emploi, et dans les pays moins développés sur le plan industriel, des façons de se nourrir, de quoi manger à notre faim. Donc des ressources. Deuxièmement, une très très forte revendication de ces trois mouvements, c'est de la dignité, ou du respect, ou de la considération, mais en tout cas, qu'on nous manifeste de l'estime et pas toujours de la brutalité ou de l'indifférence. Et troisième point, de la démocratie. Alors, de la démocratie, c'était vraiment très... Enfin, c'était aussi... on le retrouve dans ces trois ordres de mouvement de la démocratie. Alors, ces trois repères que je vous propose, ils vont me donner l'occasion d'aborder ce qui correspond à ces repères. C'est-à-dire, quand il s'agit de ressources, la transgression, c'est la délinquance. Quand il s'agit de dignité, la transgression, c'est de l'affirmation artistique. Et quand il s'agit de démocratie, ou des carences de la démocratie, ou des difficultés de la démocratie à faire en sorte que les gens, la population se retrouve dans les décisions de la population, c'est de l'insurrection démocratique. Et là, on va rejoindre un peu ce qu'on a vu dans la commune. Bien sûr, pas à l'état de fait, mais à l'état en tout cas de tentation ou de tension. Alors la délinquance. Dans la délinquance, d'abord comme transgression de la règle instituée, transgression donc de la règle édictée par le législateur ou par l'État. Donc il ne s'agit pas de toutes les transgressions, bien sûr, ce n'est pas la transgression ni de la politesse, ni de la civilité, ni des règles non dites, non écrites qu'Antigone transgressait, etc., que de respecter justement en transgressant les règles instituées. Mais on va parler donc de transgression de la règle instituée, de la loi telle qu'elle se prétend représentante de l'espace partagé. Alors je vais aborder, si vous voulez, quatre types de transgressions. Non, trois types de transgressions. D'abord un mot sur les transgressions, sur la délinquance populaire. La délinquance populaire, on ne parle que d'elle. Hein. On parlait quelquefois de délinquance des catégories plus aisées, mais grosso modo, on en a parlé en 2007, au moment de la campagne présidentielle, quand le candidat d'alors, celui qui a gagné, avait comme grand projet la dépénalisation du droit des affaires. C'était un vrai projet politique. Il pensait le mettre en œuvre au cours de son mandat. Finalement, il a renoncé à ce projet-là. Mais malgré tout, la délinquance des gens qui tiennent le système de décision, elle n'est pas prise en compte. En revanche, on parle beaucoup de la délinquance populaire. On pourrait en dire deux mots. Qu'est-ce que c'est ? C'est le vol à la portière, le vol à la tire, les cambriolages, les vols de voitures, les violences entre jeunes adultes, entre garçons en général, pour 90% des cas, le deal de cannabis, la contribution au deal d'autres substances, etc. Et puis tourne autour de ces formes de délinquance et qui sont les insolences, quelquefois extrêmement violentes, à l'égard de l'autorité, en particulier de l'autorité scolaire, de l'autorité policière et quelquefois de certaines autorités culturelles. Voilà, ça c'est l'essentiel de la violence populaire. Il y a aussi des formes de délinquance de fait, qui sont par exemple l'occupation illégale des pieds d'immeubles, qui est une délinquance qui a été produite par le politique. C'est issu de la loi de l'OPCI, je crois, l'OPCI, qui a criminalisé l'occupation des locaux, comme elle a criminalisé la prostitution et la mendicité. Et elle produit de fait une délinquance, parce que les jeunes le font quand même, bien sûr. Mais il y a, dans la délinquance populaire, il n'y a pas d'escroquerie. Il y a très peu de criminalité, à part le viol sur lequel on viendra. Il n'y a pas d'assassinat. Il y a très peu de braquage. Il n'y a pas de détournement de fonds. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais prendre, Je vais prendre trois formes de délinquance et on va en voir les traits caractéristiques et puis peut-être je vais suggérer des façons d'y répondre. Alors c'est des suggestions qui sont issues de ma propre réflexion, mais vous en ferez ce que vous voudrez. Le vol à la portière. Alors qu'est-ce que c'est le vol à la portière? Moi, j'étais une fois amené à y réfléchir dans un endroit où il s'était devenu tellement important que ça devenait lancinant. C'était sur la Nationale 1 au moment de son entrée, où elle entre dans Paris. Mais c'est sur la Nationale elle-même, pas du tout sur l'autoroute. Ça consiste à ce que deux garçons un peu costauds s'approchent d'une voiture dans laquelle il n'y a qu'un occupant. En 3 secondes, brise la vitre, ouvre la portière, pique le sac à main de la dame ou la veste du monsieur et s'en vont sans même courir, hein, tranquillement. Bon. L'endroit où j'ai observé ça, c'était Stein. La commissaire de Stein était très. Enfin, pour elle, c'était vraiment un truc très très compliqué. On a essayé de réfléchir à la question. Je vous fais grâce des réflexions qu'on a eues, mais la façon dont on peut le caractériser, c'est que c'est une délinquance absolument. Il s'agit de vol vraiment. Il s'agit de quelque chose qui est vraiment interdit par la loi, mais c'est une délinquance de nécessité. Les gens qui font ça ne font pas ça pour le plaisir. Alors, je ne dis pas ça pour l'excuser, mais je dis ça pour qu'on comprenne bien le processus social qui aboutit à ce que deux jeunes garçons arrivent à la portière et piquent un sac à main. Alors, certains s'enrichissent, mais assez rarement. En général, ils partagent le produit du larcin entre leurs proches, quelquefois avec leur famille. On sait très bien qui c'est. La police sait de qui il s'agit, sait comment repérer les gens, mais n'arrive jamais à les attraper sur le fait parce qu'ils connaissent suffisamment les lieux pour échapper à la capture. Je dis c'est une délinquance de nécessité parce qu'il s'agit quand même de manger, pas que, mais quand même beaucoup, et surtout une délinquance de ressources, mais des ressources dans la dignité. C'est-à-dire que malgré tout, le discours de culpabilisation par l'assistanat, depuis 30 ans qu'il est asséné, il finit par porter chez les gens. Et puis, les jeunes garçons en question, qui sont en général entre 18 et 25 ans, c'est plutôt des jeunes hommes, ils ont aussi une certaine idée d'eux-mêmes et préfèrent, pour ce qui les concerne, eux en tout cas, c'est pas généralisé, tout le monde ne fait pas le vol à la portière. Mais ceux qui le font, c'est beaucoup aussi parce qu'ils préfèrent prendre le risque de se faire prendre sur une carrière de vol à la portière plutôt que de filouter pour avoir des subventions, des allocations, des RSA, des trucs comme ça. Et c'est vraiment ça. Hein. C'est donc des ressources dans une certaine dignité, hein, et dans une certaine opposition à la culture qu'ils ont vue de leur père, qui se sont fait réinter sur les chaînes de montage ou sur les bâtiments et qui n'ont pas été payés de retour. Alors, ce qui mérite d'être dit quand même chez les gens qui s'adonnent à ce genre de pratiques, c'est que il y a des pratiques voisines aussi. Hein, je les ai citées, voilà, tir, cambriolage, etc. Mais moi, j'en ai rencontré un certain nombre à l'occasion d'un livre que j'ai écrit récemment, sur celui que vous évoquiez, les Lascars. Quand on les interroge, ces gens-là, ils vous disent de façon très, très sincère, mais assez insistante, qu'ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'une vie rangée. C'est-à-dire que ils ne sont pas comme ces gens du milieu qui en faisaient une carrière et qui rêvaient de s'installer là-dedans et qui d'ailleurs s'installaient. Tous les voleurs rêvent d'avoir un bon job qui paye correctement, une petite famille, une petite femme qui fasse la cuisine. Alors bien sûr, ils ont des modèles qui nous paraissent un peu désuets, mais ils disent très souvent ça et de se ranger des voitures aussitôt que possible, c'est le cas de le dire. Alors comment parler de cette délinquance de Comment envisager plutôt des formes de réponse à cela? Moi, j'ai tendance à m'inspirer de cette phrase de Nietzsche qui dit que, en parlant au nom du transgresseur, j'accepterai ta punition à condition que ta punition me reconnaisse, y compris moi, en tant que transgresseur. Et donc, comment reconnaître le délinquant en tant que transgresseur? Eh bien, Là, les formes de la réponse sociale sont nombreuses, mais entre punition, réparation, etc. Mais bien sûr que la réponse massive, c'est de faire en sorte que des gens puissent, des jeunes garçons de milieu populaire puissent avoir accès au travail. Or, pour l'instant, c'est pas du tout la tendance. Hein, c'est pas du tout la tendance. Et on a beau dire certains présidents qu'on a tout fait pour répondre au chômage ou d'autres que on n'a pas tout fait, on va essayer de faire mieux. Pour l'instant, en tout cas pour les années qui viennent, c'est pas du tout la tendance. Et donc, ces modes de traitement par le plein emploi sont très loin de l'atteinte. Deuxième type de délinquance, la consommation et le deal de cannabis. Alors, je sais qu'il est interdit de faire l'apologie de la consommation de substances interdites, donc je ne le fais pas, c'est bien entendu. Mais ce qu'on ne soupçonne pas, c'est que malgré tout, le trafic de cannabis, mais surtout la consommation de cannabis, correspond à une culture. Une culture qui mérite qu'on la considère comme telle. C'est une culture assez complexe dans laquelle il y a d'abord du mode de vie, hein, enfin de la ressource, bien sûr. Disons, il y a 20 ans, le cannabis, il venait du Maroc. Il était d'abord beaucoup plus doux qu'il n'est maintenant. Disons, il y a 30 ans, hein, beaucoup plus doux qu'il n'est maintenant. On fumait un pétard, on appelait ça un joint à cette époque-là. On était bien pendant 2 heures, on n'avait pas trop mal à la tête, ça allait. Et puis c'était une occasion de rencontre, c'était une occasion aussi c'était un mode de convivialité, c'est-à-dire que de la même façon que l'alcool, mais pas sur le même mode, mais de la même façon, ça débride les langues, ça désinhibe, ça permet de parler à des gens avec qui on n'osait pas parler, c'est à ça que servent les drogues. Hein. Et puis ça a aussi une fonction qui a été repéré par d'autres grands sociologues, c'est que ça fait oublier la vie, hein, l'opium du peuple, c'est bien ça, c'est que ça fait oublier les duretés de la vie. Or, la vie est dure, hein. On le souligne pas assez, mais la vie est dure dans les banlieues, la vie est violente, la vie est hostile, la vie ne tient pas ses promesses, etc. Et donc, le cannabis, c'est ça. Le cannabis a ses bons produits, ses mauvais produits, a ses bons endroits, ses mauvais endroits, ses rituels, etc. Et donc, pour beaucoup de jeunes qui vivent de milieux populaires, mais pas seulement de milieux populaires d'ailleurs, mais eux sont les conservateurs de cette culture. Eh bien, c'est une vraie culture. Et donc, l'interdiction du cannabis et l'attaque systématique contre les fumeurs de shit et contre le trafic et contre le deal, etc. Et son indexation, beaucoup de jeunes le ressentent comme une atteinte à des valeurs qui leur paraissent culturelles, et pas seulement de l'interdit. Par exemple, quand ils voient les flics, quelquefois éméchés, vous avez droit à boire autant que vous voulez, vous êtes bourré en conduisant votre voiture de flic, et nous, on n'a pas le droit de fumer notre shit. Et ils ne comprennent pas, ils trouvent que c'est vraiment une injustice considérable. Je ne développe pas ça, mais en tout cas, dans cette transgression, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation culturelle. Nos parents le faisaient au Maroc, ou nos parents le faisaient au Cambodge, etc. Et pourquoi on ne pourrait pas le faire nous aussi ici, dans le fond, le rapport Kouchner, et ça, ils le savent très bien d'ailleurs, il a prouvé que c'était un produit qui était moins dangereux à beaucoup d'égards que l'alcool. Et nous savons le maîtriser, etc. 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 Alors, bien sûr, maintenant, les produits qui sont en vente sur le marché sont d'une telle toxicité que je ne les défendrai pas, hein, parce que. Mais en revanche, il y a un problème, une responsabilité des pouvoirs publics quant au danger au danger sur la santé publique que ça fait encourir l'interdiction du cannabis. Le viol en réunion, c'est une autre façon un autre mode de criminalité, cette fois, de pas de délinquance. Alors. Tous les gens qui font des enquêtes de victimisation, c'est-à-dire qui ne se contentent pas des statistiques policières, mais qui vont interroger les gens, savent qu'il y a autant de viols dans les beaux quartiers que dans les mauvais quartiers, que ce n'est pas du tout un privilège de pauvres de violer, mais bon, c'en est une. J'appellerais ça une criminalité de stupidité, c'est-à-dire produite par la stupeur. Et c'est l'effet d'un décalage de comportement et de valeurs concernant les rapports entre les hommes et les femmes. Alors, vous voyez, je ne fais pas du tout d'apologie. Là, vraiment, il y a un malentendu considérable entre les gens qui vivent dans les banlieues populaires aujourd'hui et les gens qui vivent dans les autres quartiers sur les rapports hommes-femmes. Et alors que dans le reste de la population, les rapports vont, grosso modo, à l'égalitarisation des relations hommes-femmes, dans les milieux populaires, c'est majoritairement pas le cas, disons. C'est pas le cas de tout le monde, hein, mais c'est majoritairement pas le cas. Et les rapports sont des rapports de contrainte. Les psychologues, les policiers, surtout les policières en l'occurrence, sont très très étonnés de constater que les jeunes garçons qui s'adonnent dans les milieux populaires à ces violentes réunions sont toujours extrêmement surpris de la gravité qu'on attribue à leurs gestes. C'est-à-dire qu'ils croyaient faire une blague. Et ils s'aperçoivent que ce n'est pas du tout une blague. Hein. Voilà. Et ils tombent des nues quand on leur dit « Mais écoute, c'est extrêmement grave, c'est un crime, ça mérite les assises. » Et eux croyaient que c'était une petite farce, quoi, que c'était admis par la culture ambiante. Voilà. Et quand je dis c'est une criminalité de stupidité, c'est parce qu'il y a vraiment un décalage complet entre les valeurs d'un monde et les valeurs de l'autre monde qui aboutit à cette sidération des uns, alors justement on essaie de les avertir ou de les punir par les différentes modalités qui sont offertes. Alors, voilà pour ce qui est de la réponse à cette aspiration à la ressource et des délinquances qui sont afférentes. Alors, bien sûr, le viol, c'est pas du tout, il n'a pas de rapport avec la ressource, mais il est englobé dans ce malentendu sur ce qu'est la loi et la façon dont on y répond. La deuxième exploration que je vous propose, c'est la transgression comme réponse à la toute certitude de la bienséance culturelle environnante. C'est-à-dire que vous avez vos certitudes, vous qui nous gouvernez, sur qu'est-ce que c'est qu'une culture et qu'est-ce que notre culture et ce que nous avons à faire dans ce malentendu culturel. En particulier, les jeunes issus des milieux populaires tentent de répondre à ce malentendu par la production d'une culture propre. Alors, j'aurais pu choisir ce qui était le plus explicite, hein, et par exemple interroger les paroles du rap. Alors, les paroles du rap, elles sont très, très, quelquefois très démonstratives. Elles parlent explicitement de la rébellion des jeunes, de la colère contre la dégradation de la planète, de la colère contre le manque de considération, du racisme ambiant, de l'hypocrisie des politiques, etc. Et quelquefois, avec une colère très, 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 très violente, vous pouvez vous reporter au nom de certains de ces rappeurs, par exemple Faf La Rage, bon, il porte bien son nom, ou Didi La Peste, il porte bien son nom aussi. C'est des gens qui... Et c'est des grands poètes, hein. c'est pas des médiocres. Hein. Et c'est des gens qui, depuis, disons, pour ce qui est de ces deux-là, mais par exemple, Diam, c'est pareil. Hein. Diam, c'est une jeune fille. Alors maintenant, elle porte le voile parce qu'elle est très maligne. Mais elle a développé quelquefois des discours très, très agressifs, des discours et très politiques. Hein, très politiques. Vous pouvez, si vous voulez, en savoir plus, vous reporter aux paroles qu'on trouve très facilement sur Internet. Moi, je voudrais développer deux traits originaux qui sont, d'une part, toute la dimension picturale, c'est-à-dire le tag, le graphe et ce qui est assimilé, et d'autre part, la langue. Alors, pour ce qui est du tag et du graphe, la langue.
La langue. Dans le
rap. Non, la langue parlée, la langue quotidienne. La langue. Le tag et le graphe, d'abord. Alors, les tagueurs et les graffeurs, ils sont pour moitié-moitié des gens d'origine populaire et des gens d'origine bourgeoise. Mais bien sûr, étant donné le bourgeoise ou petite bourgeoise, quoi, des gens qui sont plutôt bien nantis. Mais de fait, l'initiative appartient beaucoup au milieu populaire. Et puis, étant donné le déséquilibre des populations, les jeunes d'origine populaire ont non seulement l'initiative, mais ils sont aussi nombreux quantitativement, ils pèsent plus. Qu'est-ce que c'est que le tag et le graphe? Alors, on les connaît, c'est ces grands dessins qu'on voit le long des voies ferrées, par exemple, qu'on voit sur certains murs dans l'espace public de certaines villes, sur les murs de certaines cités, mais pas trop d'ailleurs, parce que qu'est-ce que c'est que l'ambition du graffeur, si on se met à sa place, tel qu'ils le disent eux-mêmes d'ailleurs? C'est de graffer dans un endroit interdit et de poser sur le mur interdit une affirmation identitaire forte qui porte une valeur esthétique, en tout cas dans laquelle ils se reconnaissent et les gens de leur culture se reconnaissent. Alors commençons par cela. Moi, à force d'en voir et qu'on en parle, j'ai fini par être un grand adepte du graphe. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une grande beauté et dans le graphe, il y a une rythmique, un jeu des couleurs, un travail symbolique entre le sens et le non-sens, et qui est une véritable création artistique et qui se rattache, à mon avis, à d'autres courants artistiques, par exemple au cubisme, par exemple au surréalisme, par exemple à des courants qui ont précédé, où on voit la même désarticulation d'ailleurs des formes. Et les graffeurs, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent afficher cette esthétique disloquée, un peu disloquée, sur l'espace public, sans signer l'œuvre de leur propre nom. Alors revenons sur ces éléments. D'abord, pourquoi sur l'espace public? Eh bien, parce qu'ils considèrent que l'espace public leur appartient. Eux, ils ont été, je le disais tout à l'heure, ils ont été excentrés, on les a mis à l'écart dans les cités. Eh bien, ils reviennent vers le centre, ils reviennent d'une façon très très affirmée en disant: ceci est aussi à nous, les centres-villes nous appartiennent. Et donc, nous taguons, nous graffons dans les espaces publics. Certains sociologues, ils utilisent d'ailleurs pour parler des graffeurs un vocabulaire qui est emprunté au vocabulaire éthologique, et comme s'ils parlaient d'animaux, ils disent: ils marquent leur territoire. On ne dit jamais ça d'ailleurs des artistes normaux, hein. Mais pour les gens de milieu populaire, on dit: ils marquent leur territoire. Mais en tout cas, ce qu'ils marquent certainement, c'est leur appartenance, le fait qu'ils considèrent que le centre-ville leur appartient. Deuxièmement, ils œuvrent gratuitement. C'est une grande transgression d'œuvrer gratuitement. Le marché de l'art est devenu avant d'être de l'art, est devenu un marché. Et un marché extrêmement lucratif. Vous avez entendu dire depuis quelques semaines que le marché de l'art monte considérablement parce qu'on ne sait plus où placer son argent. Et les graffeurs, ils graffent gratuitement. Alors bien sûr, quand ils peuvent, ils vont graffer un garage ou un mur qu'offre une municipalité pour de l'argent, ils se font payer un peu, etc. Ils ne rechignent pas du tout à cela, mais ce qui leur importe par-dessus tout, c'est de continuer à le faire gratuitement. Et ils font référence, en tout cas moi je fais référence à Basquiat qui, même lorsqu'il était vendu au plus cher du marché de l'art new-yorkais, continuait, et jusqu'à la veille de sa mort, à graffer gratuitement sur les murs de New York. Et ils le font encore. Et même quand ils sont reconnus. Et même quand ils, même quand ils sont reconnus, quand ils sont publiés, quand ils sont demandés, etc., ils continuent. Parce que la gratuité est une valeur qu'ils défendent. Enfin, cette gratuité, ils tiennent, et le disent comme tel, à échapper à toutes les perversions sur l'art lui-même, c'est-à-dire sur la production artistique, qu'à sa mercantilisation. Troisième trait aussi transgressif de la production artistique du graphe, c'est qu'il est éphémère. Alors que la production picturale a tendance à s'installer dans la durée, en tout cas qu'elle y prétend, graphe, sachant que, grosso modo, un graphe, ça peut être effacé le lendemain, quand les pouvoirs publics sont vigilants. Sinon, quand c'est effacé par le graphe suivant, c'est grosso modo une année. Hein. Et donc, par exemple, sur les grandes lignes de chemin de fer, pour parler de celles-ci, celles qu'on connaît bien entre Caen et Paris, eh bien, les graphes sont peu effacés, mais ils sont superposés au bout d'un an. Ils sont anonymes. Alors, vous savez que les graphes sont signés, mais ils ne sont jamais signés du vrai nom du graffeur. Ils sont signés d'un nom de graffeur qui n'est jamais dit autour de soi et qui n'est connu que de la bande de graffeurs à laquelle on appartient. Et là encore, c'est une fierté de graffeur de pouvoir dire à ses potes, regarde, celui-là, c'est moi, c'est pareil que celui de qui est là-bas, etc. Et ça s'apparente à tel autre, etc. Et personne ne le sait, ni leurs copains, ni leurs copines, ni leurs parents, ni les profs, etc. Et ça encore, c'est une transgression très très importante par rapport à la production artistique contemporaine qui est hyper nominalisée, qui est hyper signée. À propos de déploiement sur la voie publique, le fait que ce soit interdit, j'y reviens en un mot, ça pourrait faire que c'est extrêmement cher. Hein. Quand on est pris, c'est très très cher. Hein. Aujourd'hui, les graffeurs qui sont pincés à graffer sur les emprises de la SNCF, comme la SNCF a pris l'habitude de repérer les graffeurs à leur signature, quand ils sont pincés, ils ont non seulement l'amende pénale à payer, mais on leur demande de payer aussi le détagage de tous les graphes dont ils sont signataires. Et ça peut être extrêmement cher. Vous imaginez le prix que ça peut, auquel ça peut monter. Voilà. Alors, les réponses qu'on pourrait imaginer à cette transgression, c'est bien sûr l'incorporation du tag ou du graphe dans les lieux conventionnels, mais c'est surtout l'interpénétration de deux formes d'art qui ne demandent qu'une chose, c'est à se rencontrer. Bien des artistes contemporains demanderaient qu'à travailler avec des graffeurs, et bien des graffeurs demanderaient à travailler avec des artistes contemporains. Or, pour l'instant, la place qui est faite, c'est maintenant depuis une petite dizaine d'années, c'est qu'on invite les graffeurs les plus connus, et souvent quand ils appartiennent à des milieux plus aisés, à déployer leur art sur des murs, dans des musées, etc. On a vu deux très, très belles expositions à Paris l'an dernier dans des musées. Ça, bien sûr, ça contribue à la reconnaissance de ces modes-là, mais ça ne répond pas à la détermination, et en tout cas au besoin d'affirmation artistique correspondant à une identité forte et pas reconnue. La deuxième affirmation que je voudrais repérer, c'est celle de la langue. Alors, parler de la langue, c'est un peu compliqué parce que, en général, les gens qui parlent de la langue de banlieue, c'est ou bien des spécialistes du verlan qui parlent entre eux, qui sont des techniciens assez pointus de différentes formes de verlan, ou bien des défenseurs de la langue française qui, soit prof de français en collège, soit finit quelque chose à la radio, soit je ne sais qui, considèrent qu'il existe une langue française qui mérite d'être défendue, etc. Ce qui est tout à fait mon avis aussi d'ailleurs, mais qu'il existe aussi d'autres formes de la langue et que ces autres formes de la langue française aussi méritent d'être considérées en tout cas. Et ce qui est intéressant pour ce qui nous concerne, c'est de voir en quoi la langue jeune, populaire, issue des banlieues est transgressive par rapport au français conventionnel. Alors, ces transgressions sont aussi à plusieurs niveaux. Le verlan, outre le fait qu'il renverse les syllabes, ce qui n'est pas très important, il n'est pas écrit, donc il est vraiment oral. Il est vraiment oral. Et ces lettres de noblesse sont orales, c'est-à-dire que ces lettres de noblesse, c'est les figures d'excellence que les jeunes développent à la sortie des lycées et des collèges. Ça s'appelle la joute. Ça s'appelle. David Lepoutre, il en parle beaucoup, beaucoup, très bien. David Lepoutre, Cœur de banlieue, c'est un très joli ouvrage d'ethnologie des banlieues qui date d'il y a une quinzaine d'années, mais qui est encore tout à fait valable, bien que la situation a changé. Et il parle très bien de la façon dont les jeunes s'affrontent l'un l'autre en essayant de développer des tournures orales extrêmement rapides, très articulées, très métaphoriques, et qui prennent la forme de combats singuliers entre deux combattants, au bout duquel il y a un vainqueur et un vaincu. Hein, c'est vraiment ça. Il y en a un qui est laissé quoi, qui ne sait plus quoi dire, tellement il a été cloué, et les autres applaudissent, félicitent le vainqueur, etc. Donc orale, très vive, très métaphorique, minimaliste aussi, c'est-à-dire qu'elle ne prête, elle ne prétend pas à un vocabulaire très très étendu, mais elle prétend à l'inverse à une plasticité très très vive du vocabulaire, c'est-à-dire que le vocabulaire change presque de semaine en semaine, hein. En tout cas d'année en année on ne retrouve pas le même vocabulaire, et aussi de quartier en quartier. J'ai rencontré une Russe qui était venue, une chercheuse qui était venue travailler le verlan de cette partie du Bas-Montreuil qui jouxte le périphérique. C'était donc un verlan extrêmement spécialisé. Et ce n'était pas le même que celle du reste du Bas-Montreuil, et ce n'était pas le même que celui d'Aubervilliers, etc. Et donc, il ne s'agit pas, alors que le français prétend à une sorte de clarté, de stabilité, de partage, etc., il ne s'agit pas du tout d'être ni clair, ni facile à interpréter et à comprendre, ni partagé, mais au contraire d'être une langue secrète, plastique, mobile, incompréhensible pour ceux qui ne font pas partie d'un groupe donné, et pas du tout complètement indocile à être écrite ou à être mise en catégorie. Par ailleurs, c'est une langue extrêmement truculente, floue, batailleuse, etc. C'est une langue qui a une grande vigueur, celle que je décrivais, c'est-à-dire qu'elle s'invente au fur et à mesure qu'elle se pratique. Elle incorpore des mots, des tournures, des expressions qui viennent du Wolof, qui viennent de l'anglais, qui viennent de l'arabe dialectal, qui viennent du vieux fond argotique français, jusqu'à faire renaître des expressions qui avaient disparu, par exemple daron daronne, qu'on n'utilisait plus il y a 30 ans. Et bien voilà que les jeunes, ils l'ont trouvé quelque part, et pour eux ça veut dire quelque chose. Donc c'est une langue qui est très très qui est buveuse comme une éponge, et qui passe aussi vite qu'elle n'apparaît. Et la façon de répondre à cette transgression, on pourrait dire, ça serait de considérer le verlan non pas comme une perversion, même élégante du français, mais comme étant une forme du français. C'est-à-dire une forme du français, comme il existe un français journalistique qui n'est pas du tout le français académique, comme il existe un français commercial qui n'est pas du tout le français académique, on pourrait très bien considérer qu'il existe un français populaire qui mérite qu'on s'y intéresse, qui mérite qu'on adopte certains de ses traits, par exemple. D'ailleurs, j'ai vu que Grand Corps Malade se donnait ça, c'est un slameur. Il n'est pas d'origine populaire, Grand Corps Malade, mais c'est un grand slameur. Et puis, il ne fait pas du vrai slam parce qu'il écrit ses textes. Mais malgré tout, il passe dans un grand théâtre parisien récemment. C'est une forme d'intégration. Mais par exemple, on pourrait imaginer qu'on considère la joute verbale comme un exercice ludique qui mérite d'être travaillé à l'école, pourquoi pas, comme exercice de rapidité, d'élocution, d'à-propos, de réponse à la situation. Troisième forme de transgression, je vais dire en 2 minutes, en 5 minutes, je vais parler de l'insurrection démocratique comme une réponse politique à l'institution démocratique, si vous voulez, en tout cas à la culture politique ambiante qui veut qu'on apparaît politiquement que sous la forme élective, voire sous la forme plus fine, plus astucieuse des différentes démocraties participatives que certains élus ont mis en place dans des quartiers populaires. Je ne veux pas dire que l'insurrection démocratique est énoncée comme telle, comme une alternative, surtout pas. Ce à quoi je vous propose de réfléchir en revanche, c'est que l'émeute de banlieue, dans sa version extrêmement récurrente, elle finit par entrer dans la conscience des jeunes garçons comme une façon d'exprimer le refus de l'institution politique et de l'institution sociale existante. Et c'est vrai, dans cette émeute rampante qu'on peut mesurer au nombre de voitures brûlées chaque week-end, ou qu'on peut mesurer au nombre de commissariats incendiés chaque année, ou qu'on peut mesurer, etc., au nombre de centres sociaux aussi qui sont brûlés chaque année, etc. Quand on va dans un centre social en banlieue, grosso modo, ce que vous dit le directeur, c'est combien de fois le centre social a brûlé en 10 ans. Hein. Et ça nous donne une idée relative de ce qui se passe dans cette banlieue. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, cette violence collective continue. D'autre part, ce moment de pic assez original qu'il y a eu en France en 2005, dans le mois de novembre, novembre-décembre 2005, il suggère que la tentation existe et que, en tout cas, dans les milieux populaires, on a malgré tout conscience que la vie politique française et les faits de cette combinaison qu'on évoquait tout à l'heure d'ailleurs, cette combinaison du mode institué de l'élection avec, quand même malgré tout, les livres d'histoire nous l'enseignent régulièrement, avec l'émeute. C'est-à-dire que l'émeute réussie, on appelle ça une révolution. L'émeute rampante, elle n'a pas de nom. Et puis l'émeute qui n'est plus rampante, qui est critique, on s'interroge dessus et on fait travailler des sociologues, des anthropologues et des historiens pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose à tirer comme enseignement. Toujours est-il que dans la tradition politique française, et encore une fois, les jeunes garçons qui vivent dans les cités sont parfaitement conscients de la chose. Si à côté de ce système très verrouillé de l'institution politique, il existe des échappées qui prennent la forme de ces émeutes, mais aussi de la grève générale dont on parle de temps en temps, hein, parce qu'on n'a pas oublié celle de 95, en tout cas dans certains quartiers, ça fait jamais que 15 ans, 16 ans que... Non, oui, 15 ans, etc., de la grève générale. Et on sait que nous appartenons à un pays qui est doté de la bénédiction de ce caprice. Et on sait que ça peut arriver. Donc ça peut arriver. Et les jeunes en question, quand ils agissent de cette façon-là, ils agissent en sachant à peu près ce qu'ils font. Je ne développe pas trop. Vous savez ce dont il s'agit. J'aurais voulu parler de la joie, de la fête, etc., du délire, des objets qui sont attaqués lors de ces émeutes, etc., et surtout de l'ébauche de discours politiques qui émerge depuis 2005, mais vous pourrez aller vous reporter à des travaux qui ont exploré ces dimensions-là. En tout cas, elle existe dans la tête des jeunes garçons qui sont les acteurs principaux de ces émeutes, mais aussi et surtout dans la tête des gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Et je crois qu'on ne soupçonne pas à quel point les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ils sont habités par l'idée que des banlieues peuvent venir d'un jour à l'autre, cette émeute populaire, et qu'ils conservent cette mise à distance et cette méfiance, à la fois par le panoptique contemporain, c'est-à-dire la surveillance des populations des banlieues, cette surveillance systématique à vue de contrôle social, et par le fichage et la par le fichage. Voilà. Alors, en conclusion, extrêmement brutale, la banlieue transgressive, point d'interrogation, je dirais Oui, je prendrai deux exemples. Malgré tout ce qu'on vient de dire, elle tend à produire une sorte de diffusion des attitudes transgressives dans d'autres milieux que celui des jeunes garçons. Par exemple, j'ai travaillé récemment avec des acteurs du système médical en banlieue. Et bien, je peux vous dire qu'une consultation de banlieue, elle n'obéit pas du tout aux mêmes règles qu'une consultation de centre-ville, hein. Ni dans le secret de la consultation, ni dans la façon dont le médecin s'adresse au patient, ni dans la façon dont le patient s'adresse au médecin, ni dans la durée, ni dans le caractère, dans les caractères de la prescription, ni à beaucoup d'égards, ni dans la rémunération, hein. Je connais par exemple un médecin qui travaille et vit en banlieue depuis maintenant presque 40 ans, qui n'a jamais demandé une rémunération, qui attend toujours qu'on lui propose la rémunération. Et il dit qu'elle vient toujours. Hein. Lui ne demande pas. Toujours, c'est le. Voilà. Et un autre milieu qui est aussi entré dans des formes de transgression à l'égard de la loi et qui ne fait pas non plus partie des jeunes de banlieue, pour vous dire que ça diffuse, c'est le milieu des entrepreneurs de banlieue. Et l'entreprise économique de la banlieue, elle obéit à des logiques qui sont beaucoup plus proches des entreprises du tiers-monde, c'est-à-dire l'installation au noir d'abord pendant un certain temps, l'entreprise souterraine, etc., avant que petit à petit elle s'installe, elle devienne une entreprise légitime et qu'elle finisse par, le cas échéant, mais pas forcément toujours, devenir une entreprise avec pignon sur rue. Je m'arrête là, je vous remercie.